l'ultra foutage de gueule.
Une sale gaucher.
Oui, peut-être.
Je suis un rebelle officiel.
Vous êtes à côté, madame Blanc. On ne peut pas dire que vous cassez les gueules.
C'est fantastique.
C'est de la merde.
C'est énorme.
Comme ma bite.
Stop. L'humour a ses limites.
À moins que vous ne viviez dans une grotte, vous n'avez pas pu passer à côté de la terreur du canal Saint-Martin. Hamza Dziladouane, un adolescent de 14 ans qui fout le bordel au canal Saint-Martin depuis au moins 3 semaines. Ses vidéos cumulent des millions de vues sur les réseaux sociaux. Dégradation de mobilier urbain, barrages improvisés et tentatives de racket des automobilistes et cyclistes, et autres incivilités en tout genre. Face à ce buzz, la réaction de la gauche n'est pas vraiment surprenante.
Qu'est-ce que vous pensez du cas du petit Hamza ?
Alors là, je crois que les médias et les polémiques racistes et sécuritaires de l'extrême droite ont encore réussi à me surprendre, parce que je pensais pas qu'il allait avoir en boucle sur des plateaux télé ce niveau de harcèlement d'un gamin de 14 ans qui fait des batailles d'eau au bord du canal Saint-Martin. Et je pense que c'est important de dénoncer en fait la panique raciste à laquelle ça correspond. Bah, vous verrez, il suffit de voir les commentaires sous les vidéos, et je vais faire mon intervention en entier parce que vous avez pas interrompu les autres, pour dire qu'en réalité, moi je trouve un peu délirant la gravité qui est accordée à cette situation, d'autant que je le rappelle, ce matin j'entendais Pascal Praud expliquer que cette histoire, elle synthétisait tous les problèmes de la société. Bah, moi je pense l'inverse.
Mais il y a plus de 1000 personnes qui sont mortes. Pousser des jeunes femmes dans le canal.
Mais de quoi vous parlez? Vous parlez d'un enfant de 14 ans qui a fait de la garde à vue parce qu'il demande 2 euros
à un père. Faut le prendre par l'oreille et le ramener à l'ordre. Non, donc il faut le laisser faire.
Oui.
Hamza embarrasse la gauche qui se perd sur les plateaux télé et sur les réseaux sociaux entre déni, relativisme et tentative de diversion. Ce n'est qu'un gamin de 14 ans, il lutte comme il peut contre la canicule, ce n'est que de l'eau. Il y a des choses bien plus graves dont on devrait parler, c'est du racisme, bla bla bla.
D'accord, faisons comme ça.
On a tous compris que ceux qui embêtent la gauche, ce sont les origines ethniques de l'auteur.
Faites pas les ignorants, vous le savez.
Ah. Les Allemands.
Mais non.
Les Japonais, Thierry.
Mais non.
Les Sarrasins.
Hein? Les quoi?
Les Arabes.
Oh oui.
Hamza est issu de l'immigration. La gauche se heurte donc naturellement à son propre logiciel et à l'intersectionnalité des luttes. Hamza est maghrébin et de facto, il a sa carte de membre au club des victimes du méchant système français oppresseur et raciste.
Mais c'est gravissime.
Mais voilà, cette affaire n'a rien d'un jeu innocent. Elle est à bien des égards révélatrice de l'état de déliquescence de la société française. Elle met en lumière une crise profonde de l'éducation, de l'autorité et de la transmission des valeurs les plus élémentaires. Le premier point de rupture est le jeu en question. Je pense qu'on a à peu près tous joué à des batailles d'eau quand on était gamin ou ado. Mais voilà, il y avait une frontière invisible et un cadre moral naturel. On joue entre nous, avec nos amis, c'est-à-dire avec ceux qui avaient explicitement accepté les règles du jeu. Il nous serait jamais venu à l'esprit de cibler des adultes, des inconnus, des passants et encore moins la police. Pourquoi ? Parce qu'il existait une notion de pudeur, une barrière générationnelle et un respect inné de l'adulte. Un jeu ne fonctionne que si les différents participants sont consentants entre eux. C'est comme un micro-contrat social. Si un jeu n'amuse que celui qui a décidé d'y jouer, alors ça ne s'appelle plus un jeu. Ça s'appelle une incivilité, une agression ou une extorsion, quelle qu'en soit la gravité apparente. Quand Hamza et ses complices bloquent des voitures, des cyclistes ou des motards, ils ne s'amusent pas. Ils piétinent le droit fondamental à la tranquillité d'autrui. C'est le triomphe d'un narcissisme roi, un sentiment de toute puissance où le plaisir personnel passe avant le consentement des autres. Le citoyen ordinaire qui rentre d'une journée de travail n'est plus un égal à respecter, mais un figurant, un accessoire au service du buzz. La réalité factuelle vient balayer définitivement l'excuse des gamins qui ont chaud. Ce phénomène ne s'arrête pas à une banale histoire de flotte. Il s'agit d'une véritable appropriation de l'espace public. Le choix même de son pseudo, la douane, est une parodie. Hamza singe l'autorité, il décide qui passe, qui s'arrête et à quelles conditions. Il avoue même ses méthodes au micro de Jordan Florentin.
Les douaniers, ils laissent passer les gens, c'est quand ils les payent, ils regardent pas leur véhicule. Moi je fais la même avec les vélos, tu me passes 2 euros, tu passes, je te mouille pas, tu me passes pas 2 euros, je t'allume. On t'arrose jusqu'à, tu pleures.
Il lui file 2 euros ou il les arrose. Ce que le code pénal qualifie d'extorsion et de racket est ici banalisé. Pour lui, ce n'est pas du vol, c'est un défi, un jeu de rôle grandeur nature. On n'a pourtant pas l'impression d'avoir affaire à un grand bandit ou à un psychopathe en devenir, et c'est ça le pire. Son profil est presque désarmant. Une naïveté enfantine émane de lui. Hamza ne se cache pas. Il vole, attaque les forces de l'ordre, pousse des gens dans le canal, il balance du mobilier urbain, etc.
Nous, on mouille des gens, on veut rien de mal, hein. C'est tout.
Et vos parents, ils sont contents de tout ce que vous faites là ?
Mon père il est au courant, ma mère c'est pas encore. Elle a vu 2-3 vidéos, c'est tout.
Il vous laisse faire tranquille.
Et après, mon père il me laisse faire tranquille parce que il sait que je fais pas de bêtises. Il sait juste que je mouille des gens, je mouille la police de temps en temps. C'est tout. Ouais,
pour vous, c'est pas des bêtises.
Et pour mon père aussi.
Lorsqu'il dit à Jordan Florentin qu'il ne fait rien de mal, il a l'air sincère et c'est ça le pire. Il n'a aucune boussole. Il n'a pas le logiciel moral pour comprendre la portée de ses actes. Personne ne semble lui avoir appris la frontière étanche entre le bien et le mal, le respect de l'intégrité physique et des biens d'autrui. Il vit dans un vide moral absolu où la délinquance ordinaire est un mode de vie. Plus on transgresse, plus on existe. Comment un adolescent peut-il en arriver à ce degré d'inconscience ? La réponse se trouve dans la démission systématique de toutes les lignes de défense de l'autorité. La première d'entre elles est la cellule familiale. On entend souvent les sociologues de plateau expliquer que les parents ne peuvent pas être derrière leur enfant H24. Mais dans le cas d'Hamza, l'excuse s'effondre. Il admet lui-même, son père est parfaitement au courant de ce qu'il fait au canal Saint-Martin depuis des semaines, et ça le dérange pas plus que ça. Son père et sa mère ont d'ailleurs été retrouvés par le Parisien, et devinez quoi ? Hamza n'a pas menti. Je cite son père.
Il est gentil, il fait de mal à personne, il rigole avec les gens, il reste pas enfermé.
Alors non, monsieur le papa de Hamza, il ne rigole pas avec les gens. Il rigole avec ses potes de ce qu'ils font aux gens. C'est pas tout à fait la même chose. Ce gars-là, par exemple, j'ai pas l'impression que ça le fasse beaucoup rigoler. Sa mère, quant à elle, dénonce les condamnations des frasques de son fils. Y voyant, bingo, du racisme, la carte joker magique, fallait s'y attendre.
Mais voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr !
Dans une société normale, commettre des délits et attirer l'attention de la police apporte la honte sur une famille. Dans le monde d'Hamza, la question ne se pose même pas, puisque ses parents valident son comportement. La pomme ne tombe jamais loin du pommier, comme on dit.
Voilà.
Quand la famille abdique, l'État est censé prendre le relais. Sauf que l'État a également démissionné. Hamza nargue la police, fait de fréquents allers-retours au poste, et se permet même une petite pointe d'humour en indiquant que c'était cool parce qu'il y avait la clim.
T'es passé où ?
Je m'en bats les couilles.
T'es passé où ?
Ouais, garde à vue, j'ai 11. Enquête.
Ah ouais ? C'était bien.
La garde à vue est censée être un choc psychologique, marquant la sévérité de la loi. Pour Hamza, c'est juste une pause logistique confortable dans sa journée de méfaits. La police n'est plus la figure de l'ordre absolu que l'on craint et que l'on respecte. Pour lui, le policier est un simple PNJ dans un jeu vidéo grandeur nature. Hamza n'a peur ni de la police, ni de la justice.
Foutez ça aux poubelles, s'il vous plaît.
Ce vide moral se double logiquement d'une déconnexion totale des réalités économiques. Quand Florentin lui demande ce qu'il veut devenir plus tard, sa réponse est surréaliste. Il veut être investisseur.
Il a envie de faire quoi plus tard ?
Moi, j'aimerais travailler dans... comment ça s'appelle ? Comme investisseur.
Derrière l'apparente naïveté et la bêtise de cette réponse, se cache une vérité bien plus inquiétante. Hamza ne se demande pas quel effort il va devoir fournir ou quelle valeur il va devoir créer pour gagner sa vie. Il a déjà sauté cette étape dans sa tête. Dans son esprit, l'argent doit lui arriver tout cuit par magie. C'est le syndrome d'une génération bercée par l'argent facile. Il a parfaitement intégré l'idée que le travail n'est qu'une option parmi tant d'autres. On retrouve ici la trajectoire exacte de l'enfant roi. De même qu'il s'octroie le droit de privatiser la rue pour son plaisir immédiat, il s'imagine déjà rentier sans avoir à fournir le moindre effort. C'est le refus global de la discipline, du mérite et de la réalité du monde des adultes. Il est tentant de voir en Hamza un cas isolé, mais ce serait une erreur. Il n'est que le produit fini d'un pays sur le déclin. Sa trajectoire est toute tracée. Si déjà il n'a reçu aucun cadre pendant les 14 premières années de son existence, qu'est-ce qui l'empêchera de passer à l'étape suivante ? Les rodéos urbains, les émeutes, les pillages, le trafic de stupes, voire bien plus encore. Et non, ce n'est pas le sophisme de la pente glissante, c'est un mode d'emploi de la délinquance. Son profil n'est pas sans rappeler celui de Naël. Dans l'absolu, Naël n'avait pas l'air d'être foncièrement mauvais lui non plus. Mais voilà, à 17 ans, il collectionnait déjà les démêlés avec la justice et la police. Refus d'obtempérer, conduite sans permis, implication dans des affaires de vol, de stupes, etc. C'est là que se trouve la plus grande fracture. Ce qui est choquant et inconcevable pour la majorité des citoyens est devenu la norme pour eux. Rappelez-vous la mère de Naël qui minimisait la délinquance de son fils, disant en gros que ce sont des erreurs de parcours que n'importe qui aurait pu commettre et qu'à peu près tout le monde a probablement déjà commis.
Refus d'entempérer ? Qui n'en fait pas ? Dites-moi, qui n'en fait pas dans la vie ? Qui conduit pas sans permis ? Dites-moi, expliquez-moi. Pas mal de gens ont conduit, tout le monde, tout le monde. On a tous essayé de conduire sans en dépôt de permis. On a tous appris à conduire sans avoir le permis, je vous promets.
Ou encore la grand-mère de Naël qui nous disait qu'il faisait des petites bêtises comme tout le monde.
Il fait des petites bêtises comme tout le monde.
Leur repère n'est plus la communauté nationale, mais l'horizon indépassable de leur quartier, de leur bande ou de leur communauté. Ils sont en totale déconnexion avec le réel. Ils oublient ou ignorent sincèrement que 99% des adolescents n'ont jamais conduit sans permis, racketté des inconnus dans la rue, ni mis les pieds une seule fois dans leur vie dans une cellule de commissariat. Hamza n'est ni un fait isolé, ni un divertissement. C'est le produit fini d'une double démission, institutionnelle et familiale. Quand les gauchistes qualifient tout cela de jeu, elle ne fait pas preuve de tolérance, elle fait preuve de lâcheté. Elle valide le fait que des millions de jeunes grandissent aujourd'hui comme des enfants rois de la rue, persuadés que l'espace public leur appartient, que provoquer la police est un jeu et que l'argent tombe tout cuit sans travailler. Hamza n'est pas la maladie, il est le symptôme d'une société qui a renoncé à transmettre ses règles les plus élémentaires. Quand la première instance de socialisation, celle qui est censée vous apprendre le respect et les limites, hausse les épaules face aux raquettes et à l'incivilité, pourquoi le jeune s'arrêterait-il ? Ce n'est plus seulement une crise d'adolescence ou une bêtise de rue à l'insu des parents. C'est une culture de l'impunité qui s'installe au cœur même du foyer. Si la famille baisse les bras ou valide le chaos, l'école et la police n'ont plus aucune chance, à moins de basculer dans l'autoritarisme.
C'est bien du coup, non ? Non, mais bien sûr, c'est bien, évidemment.
Non, parce que la façon dont tu l'as dit, enfin,
je voulais pas d'une certaine façon.
L'affaire montre à quel point la France vit dans deux réalités parallèles. D'un côté, une partie de la gauche qui minimise par paternalisme ou aveuglement idéologique. De l'autre, une partie de la droite et de la population qui y voit une preuve de l'ensauvagement et du séparatisme culturel. La rue devient la cour de récréation géante de Hamza et il est le roi absolu, car l'autorité est perçue comme absente ou impuissante. Quand il répond à Jordan Florentin qui ne fait rien de mal, ce n'est pas forcément un mensonge cynique.
En vrai, de vrai, je terrorise pas tout le monde. Parce que moi, je moque des gens. Après, la plupart des gens, ils veulent pas, c'est-à-dire des petites bagarres. Mais sinon, après, il n'y a rien de spécial. Des fois, je moque des gens, je nage, je mouille les policiers. On me ramène un garde à vue parce que j'ai mouillé des policiers.
C'est autorisé, ça, normalement, de mouiller les policiers.
Il fait chaud, hein.
Chez ce type de profil, le mal commence probablement au crime de sang. Tout ce qui est en dessous, agression sans conséquences corporelles graves, vandalisme, insolence et entrave, est classé dans la catégorie divertissement. Une bouche d'incendie, une route, ce n'est à personne dans son esprit, donc on peut le vandaliser. L'idée que cela appartient à la collectivité et que cela a un coût payé par les impôts des travailleurs lui est totalement étrangère. En bloquant des voitures et en arrosant des gens qui rentrent du travail, Hamza et ceux qui l'imitent imposent leur plaisir individuel au détriment de la liberté d'autrui. C'est la définition même du narcissisme pathologique et de la toute-puissance. Leur droit à l'amusement est jugé supérieur au droit à la tranquillité des autres. Hamza n'a pas l'air méchant. Cependant, personne ne sera étonné d'entendre à court ou moyen terme parler de lui dans la catégorie faits divers, cette fois-ci pour des faits bien plus graves. Il est bien gentil, l'ami Ben le Patriote, avec ses « on continue le combat pour le vivre ensemble ».
Et comme ça, on arrivera peut-être à vivre ensemble. Parce que ça, c'est l'exemple du vivre ensemble. Nous, en France, c'est comme ça que on réussira, avec tous ceux qui se sentent français, à vivre tous ensemble.
Ta gueule !
Mais en ce qui me concerne, j'ai pas envie de vivre avec des gens qui n'ont pas intégré ne serait-ce les bases de ce putain de vivre ensemble.
C'est la droite !
Ah !
Plante !
Ouais !
Plante gueule ! Voilà ! Exact !
On a beau tenter de tout foutre sur le dos de la dernière génération, celle née dans les années 2010, mais le cas d'Hamza est la preuve que sa déconnexion avec le réel n'est pas née de nulle part. Elle est le fruit de l'éducation que lui ont donnée la génération d'avant, ou plutôt que ne lui ont pas donnée celle d'avant. Et ses parents, probablement nés dans les années 90, sont eux-mêmes le produit de la génération d'avant née dans les années 60-70. La vieille rengaine comme quoi les anciennes générations de maghrébins arrivées dans les années 70-80 étaient tous des gens respectables qui se sont intégrés m'a toujours fait doucement sourire. Le constat est sous nos yeux. Ils se tenaient peut-être un peu tranquilles à l'époque, mais chaque nouvelle génération a planté les graines de la génération de sauvageons à laquelle appartient Hamza. Hamza est, comme je l'évoquais plus tôt, le produit fini, le boss de fin. C'est un peu Bou dans DBZ.
Boubou manger, boubou content, boubou faire plein de choses. Oh
Et dites-vous bien qu'il n'a pas encore atteint son stade d'évolution finale.
Ça fait peur, non ?
Cette vidéo aurait dû s'arrêter là, mais je viens de tomber sur ce tweet d'une connerie abyssale, et je ne peux m'empêcher d'y réagir tellement il est de mauvaise foi.
Rémi Gaillard aurait fait exactement la même chose que le petit Hamza. C'était 20 millions de vues, 99% de commentaires positifs, mais Hamza s'appelle pas Rémi.
Ouin ouin, c'est la faute du racisme, jamais de leurs actes. J'adore le petit Hamza. Le gros Hamza, ce serait déjà plus approprié, tellement il est gras comme un loukoum, probablement gavé au testi crousti. Et ton petit Hamza, il est visiblement suffisamment grand pour tirer des mortiers sur la police. Alors oui, Rémi Gaillard est presque unanimement salué, en effet. Mais je sais pas, c'est peut-être parce que Rémi Gaillard, c'était un humoriste qui avait du talent, tu crois pas ?
Mais qu'il est con.
Rémi Gaillard, c'était pas un gros lard sans éducation qui agressait les gens pour sa seule satisfaction personnelle. C'était beaucoup d'imagination et un sens aigu du comique. De plus, Rémi Gaillard a toujours été un défenseur de la cause animale. Dans nombre de ses sketchs, il y avait une dimension politique et militante. Après, tout me faisait pas rire chez Rémi Gaillard. Les pranks de rue ne me font rire que lorsque, justement, il n'y a pas de dimension agression. Débarquer dans un supermarché déguisé en gorille et charger son caddie de bananes, ça me fait rire. Entrer dans le stand boucherie d'un supermarché et boxer une carcasse de bœuf sur fond de Eye of the Tiger, ça me fait rire. Se faire une partie de Mario Kart grandeur nature dans les rues de Montpellier, c'est un peu dangereux, mais c'est super drôle. Et c'était des années avant que le concept devienne un vrai business dans les rues de Tokyo. Par contre, être déguisé en kangourou et balancer un golfeur à la flotte, ça me fait pas rire du tout. Tous les gags qui consistent à balancer des trucs sur les gens ou à les faire chuter, je déteste. Et si on me le faisait à moi, prank ou pas, t'as intérêt de courir vite.
C'est la deuxième porte à droite.
Merci beaucoup.